Un secret, vous en avez, vous, des secrets? Vous trouvez pas que c'est de plus en plus difficile de les garder? Ce mot secret, il est même devenu un petit peu suspect. Il suffit de l'écrire sur votre barre de recherche sur Internet pour tomber sur une ribambelle de dévoilements, de révélations, ou de cette épouvantable reality TV qu'on nomme Secret Story. L'impossibilité du secret, aujourd'hui, à l'heure de la transparence et du grand déballage de l'intime, l'impossibilité du secret, apparemment, de ce quelque chose de sacré qu'on prendrait un malin plaisir à profaner tout le temps. Évolution de notre temps. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de transparence sans secret. C'est même la présence de secrets qui conditionne la transparence. Dans un texte remarquable, Gilles Deleuze et Félix Guattari expliquaient déjà que le principe du secret, c'est justement de se répandre, de suinter, de sécréter. C'est une construction, le secret, une construction dont la fonction est d'être divulguée. Sinon, elle n'existerait même pas, cette notion de secret. Sinon, il n'y en aurait pas. Le secret est toujours trop grand, trop imposant pour celui qui le garde. Posez-vous la question de la raison d'un secret. Et souvenez-vous, pour citer ce texte édifiant, qu'il y aura toujours une femme, un enfant ou un oiseau pour percevoir secrètement le secret. Il y aura toujours une perception plus fine que la vôtre, une perception imperceptible de ce qu'il y a dans votre boîte.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invitée d'aujourd'hui a-t-elle le goût du secret? Elle, dont les personnages semblent aussi bien guidés par la curiosité que travaillés par des événements passés, inavoués, souvent inavouables. Elle est, vous l'avez deviné, romancière mais aussi poétesse. Après A Suspicious River, La vie devant ses yeux, Rêve de garçon, Un oiseau blanc dans le blizzard ou encore Esprit d'hiver, son premier recueil de nouvelles vient de paraître dans une belle traduction de Céline Leroy. Ça s'appelle Si un inconnu vous aborde. Bonjour Laura Kaczynski.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci de me recevoir.
Merci d'être là. Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'un secret vous dévore?
I have indeed.
Ah oui.
Maybe by more than one.
Et même plus d'un secret. Mais je crois que j'ai refoulé tout cela jusqu'à oublier que ces secrets me dévorent encore. Mais oui.
Et comment est-ce qu'on fait alors pour ne pas se laisser dévorer par ces secrets? Je vous pose la question parce que c'est souvent ce qui arrive aux personnages de vos histoires.
Well, I think I probably work pretty hard to repress.
Bon, je crois que je fais tout mon possible pour refouler et oublier tous ces secrets. Et puis, fort heureusement, j'écris. Par conséquent, j'arrive à canaliser ma culpabilité, mes peurs et la terreur que tous ces secrets soient révélés au grand jour. Qu'on révèle ce péché. Et voilà pourquoi j'insuffle ces secrets dans mes personnages. Voilà, c'est à eux de s'en préoccuper.
Vous en avez beaucoup, des secrets?
Oh, yes,
oui.
I do.
Oui, oui.
Nothing that probably affects my life greatly
bon,
right now.
Bon, rien qui n'ait des répercussions considérables sur ma vie actuellement, mais oui, j'ai des secrets.
Si vous les écrivez dans vos livres, Laura Kaczynski, de manière plus ou moins déguisée, à qu'est-ce qu'ils appartiennent, les secrets que vous racontez?
Well, if I give them the secrets, but if they are my secrets,
j'attribue mes secrets à mes personnages, mais ces secrets continuent de m'appartenir.
Hopefully it becomes...
Mais en les confiant à mes personnages, eh bien, j'espère qu'il y a une petite alchimie dans les deux sens. Je deviens eux, ils deviennent moi, et à la fois, ils sont quelque chose d'à part, leur propre incarnation d'êtres humains qui vivent, qui sont eux-mêmes. Donc, je ne dirais pas que je soulage ma conscience ou que j'essaye de modifier considérablement ma vie émotionnelle en attribuant à mes personnages des défauts, des qualités que j'aimerais avoir ou pas, des actes. Mais la plupart des écrivains, vous savez, je crois qu'ils sont guidés par ce besoin de catharsis.
C'est sur ce thème que s'ouvre Mona, la première nouvelle de votre recueil. Si un inconnu vous aborde, j'aimerais en lire le premier paragraphe, si vous le voulez bien, pour nous mettre d'emblée dans le bain. Il lui avait bien dit, tous, de ne pas fouiner. À quoi bon lire le journal intime de ta fille adolescente ou fouiller dans les tiroirs de sa commode si tu ne sais pas quoi faire de ce que tu risques de découvrir? Ne serais-tu pas plus sereine en ne sachant rien, au cas où il y aurait quelque chose que tu ne voudrais pas savoir? Comment est-ce que vous définiriez la curiosité, Laura Kaczynski? C'est pas un vilain défaut, rassurez-moi.
I think curiosity is has been with me for a long time. I did
Je suis
have a family that
guidée
kept a
par la curiosité
secrets.
Depuis toujours.
And
j'ai grandi dans une famille qui avait beaucoup de secrets. Et dès lors que j'ai senti ça, j'ai eu des soupçons qu'il y avait des secrets. Et puis quand j'ai découvert une vérité qui m'avait été cachée, la première fois, je me suis mise à essayer de débusquer la vérité partout. Je soupçonnais tout le monde et chaque chose de ne pas être ce qu'il prétendait être. Ça m'obsédait, oui. La curiosité, si c'est un défaut, ah ben j'ai ce défaut.
Vous voulez dire que c'est ce qui fait de vous aussi un écrivain ?
I think it possibly, certainly,
Sans doute, oui, c'est possible. C'est la curiosité qui me fait écrire mes romans. Et puis il y a eu aussi mon désir de lire, ma curiosité de lecture. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Et puis c'est un peu une excuse pour explorer mon imaginaire à la recherche de la vérité. C'est ça qui m'inspire.
Dans Mona, la première nouvelle, il s'agit donc d'une mère de famille qui n'a aucune raison de fouiller dans le tiroir de sa fille, mais qui le fait quand même. Pourquoi est-ce qu'elle le fait ?
Because she had herself had such secrets and kept them
Parce qu'elle-même gardait beaucoup de secrets. Elle se cachait de ses parents, adolescente, et par conséquent, elle pense que sa propre fille lui cache des secrets. Est-ce qu'il anime, ce n'est pas le voyeurisme ? Bon, même si c'est intrusif, on fouille en cachette, on veut entrer dans la tête de son propre enfant, ça pourrait être du voyeurisme. Mais je crois que surtout, elle a peur pour sa fille.
Et puis j'ai l'impression que vous nous dites quelque chose de ce monde où tout doit être transparent. Ça résonne beaucoup. Aujourd'hui, de quoi elle témoigne, à votre avis, cette volonté aujourd'hui de tout savoir, de tout contrôler ? De quelles peurs, de quelles obsessions ?
Well, that's interesting because also this comes at a time where
Oui, c'est très intéressant. C'est vrai qu'on vit à une époque où on suspecte tout d'être un mensonge et beaucoup de choses qu'on nous a dites étaient des mensonges. Ça a été prouvé. Donc psychologiquement, c'est vrai que c'est intéressant. Alors même qu'on exige partout la vérité, on exige les faits objectifs et en même temps, on ne cesse d'entendre parler de fake news, de nouvelles bidons, de fausses actualités. Et on ne croit plus que tout ce qu'on entend soit vrai.
Moi, je vais vous dire, cette première nouvelle, elle m'évoque immédiatement d'autres romans que vous avez écrits. J'ai pensé à Esprit d'hiver, à Un oiseau blanc dans le brouillard, à La vie devant ses yeux, dont la relation mère-fille constitue l'un des enjeux principaux. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce thème au point d'en proposer livre après livre, dites-moi si je me trompe, d'infinies variations ?
Well, I think probably my own relationship with my mother. I was an only child.
Je crois que ça vient de ma relation avec ma mère. J'étais fille unique, elle aussi était fille unique, ainsi que ma grand-mère. Et tout ça, c'était un peu mystérieux pour moi, toutes ces filles uniques. Je ne sais pas jusqu'où ça remonte. Cette proximité, cette tradition de proximité et de conflit entre mère et fille dans notre famille. Mais moi, j'ai eu un fils. Je crois que j'ai eu de la chance. Bon, qui sait s'il devient écrivain, ce qu'il aura à dire de tout ça. Mais en tout cas, notre relation mère-fils est exempte de tous les conflits que j'ai eus avec ma mère. Et en même temps, on était très proches, ma mère et moi. Mais on était en conflit permanent, aussi loin que je me souvienne. Oui, je crois qu'il ne faudrait pas longtemps à Dr. Freud pour diagnostiquer d'où je tire mon tropisme.
Laura Kaczynski, vous êtes publiée depuis une vingtaine d'années en France, où vous rencontrez un immense succès, où beaucoup de lecteurs vous connaissent et où vous bénéficiez en réalité d'un statut assez différent qu'aux États-Unis. J'aimerais qu'on donne la parole à votre éditrice de toujours, Dominique Bourgois, pour qu'elle nous parle un petit peu de vous.
Allô ? Allô.
Elle est originale, elle est dans son monde, Laura. Elle est professeure de littérature, elle est professeure de creative writing. Elle a un univers qui est très lié, il faut le dire, à l'endroit où elle vit, aux saisons, aux relations familiales. Et cet univers, elle en sort rarement. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cet univers qui pourrait sembler totalement américain, entre guillemets, finalement, il touche, et c'est là, je veux dire, la puissance de son travail, il touche énormément de gens. Et nous, à la différence de ces éditeurs, en tout cas américains ou en tout cas anglo-saxons, c'est que nous, on n'a jamais pensé que c'était une littérature pour les jeunes adultes. je pense que c'est pas parce que les jeunes adultes sont très souvent les héros ou les personnages de ces romans que cette littérature ne s'adresse qu'à eux, au contraire. Et par exemple, nous, sur son roman qui s'appelle Les Revenants, qui se passe donc dans une université, sur la couverture, on avait mis l'ombre de deux portes. Un peu inquiétant, mais ça suffisait. L'éditeur américain a mis trois jeunes filles blondes. Vous voyez bien la différence d'intention. Donc, moi, je pense que l'œuvre de Laura, elle est toute, Madame Kachichka, elle est tout à fait originale, particulière, et il faut surtout pas intervenir.
Votre éditrice de toujours, Dominique Bourgois, Laura Kaziski, qui explique que votre œuvre, dans le monde anglo-saxon, elle entre souvent dans la catégorie de la littérature pour jeunes adultes. Cette catégorisation de votre écriture, ça a pu vous agacer ?
Only two of them were, and actually,
seulement deux de mes livres ont été classés comme des romans pour jeunes adultes. Et à l'origine, Rêve de garçon n'était pas destiné à être un roman pour jeunes adultes ou adolescents, mais aucun éditeur n'en voulait, et un seul a accepté à condition que je change pour en faire un roman pour jeunes adultes. Bon, je voulais être publié, donc j'ai modifié mon livre. D'ailleurs, je l'ai beaucoup changé par rapport à la version française qui en a été publiée, de l'original, et je suis reconnaissante à Dominique d'avoir déterré l'exemplaire original. C'est le seul que je possède. Donc, je l'ai beaucoup modifié. Et puis, La Couronne Verte, eh bien, je l'ai écrit parce que j'avais un contrat pour écrire un second livre pour jeunes adultes après la publication de Rêve de garçon. C'était mon contrat. Voilà, c'était un peu un pas de côté. Mais j'ai des amis, par exemple, qui ont des enfants, des filles de 15-16 ans, et qui me disent qu'elles vont acheter ce livre pour l'offrir à leurs enfants. Et je leur dis non, non, surtout pas. Il ne faut pas qu'ils lisent ce que j'ai écrit. Il faut qu'ils attendent d'avoir 40 ans au moins pour lire mes livres.
Ce qui est intéressant, c'est que vos textes, et c'est le cas dans les nouvelles de Si un inconnu vous aborde, sont très ancrés dans une géographie. Il y a un lieu qui revient toujours. C'est évidemment la banlieue résidentielle américaine, lieu par ailleurs très américain. Qu'est-ce qu'elles incarnent pour vous, ces banlieues, qui dans vos livres sont omniprésentes et se ressemblent toutes ?
La banlieue, bon, c'est le décor dans lequel j'ai grandi, c'est ce qui était le plus proche de moi. Mais je dois ajouter que je trouve le matériau assez riche. Ce qui m'intéresse, ce sont toutes les différences entre ce qu'il y a à la surface et ce qu'il y a sous la surface. De même dans la vie de famille. C'est très marqué. Et dans notre vie de tous les jours, notre vie personnelle, les choses qu'on se cache à soi-même aussi. Et si on prend tout cela et qu'on transpose ça sous forme de ville, eh bien, ça devient la métaphore de ce qui se passe dans nos têtes. Et pour revenir à votre première question, quels sont les secrets que je cache aux autres et à moi-même? Ça m'intéresse aussi, ce que je cache à moi-même. Et je suis certaine qu'il peut y avoir de bien meilleures métaphores pour cela, mais bon, j'ai choisi la banlieue où tout le monde cache des secrets à soi-même, aux autres, et ce, sous forme collective. En tout cas, c'était un thème récurrent dans la banlieue où j'ai grandi.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers vos personnages, Laura Kaziski, vous nous mettez en garde contre le désir d'une vie conforme, pour ne pas dire parfaite, c'est-à-dire une vie bien rangée, d'homme ou de femme mariée, avec un enfant, avec un chien, dans une maison avec véranda et avec un rocking chair. La comédie de la normalité, pourtant cette vie-là, c'est un petit peu la vôtre. Non.
Well, I mean, yeah, I think that there's some truth to that. My husband always tells a story about the first bookstore readings I did.
Mon mari aime raconter une anecdote. Lorsque je donnais mes premières lectures publiques, c'était dans l'Iowa. Il s'agissait de mon roman Suspicious River, un roman très sombre, raconté du point de vue d'une prostituée dans une petite ville. Et avant de me mettre à lire, bon, ben, j'ai fait des petites blagues, j'ai posé des questions aux personnes dans la salle. J'étais assez gaie. Et mon mari jamais entendu des gens quittant la salle dire « Oh, mais elle a l'air tellement joyeuse, heureuse, pourquoi elle écrit des romans si torturés ?» Alors c'est vrai que ça peut être mon image publique. Je suis plutôt joyeuse. Mais bon, il y a peut-être une dichotomie avec tout ce qui se passe dans ma tête et c'est peut-être de là que je tire les thèmes de mes romans. Je me souviens, mon oncle, qui avait beaucoup d'humour, avait lu un de mes romans et lors d'une réunion familiale, il est venu me voir et m'a demandé « Mais qui es-tu ?» J'avais envie de lui dire « Oh, tu ne veux pas savoir ?»
L'asphyxie, notamment, qui est partout dans ce que vous écrivez. Par quoi est-ce que vous vous sentez asphyxié, vous ?
Je
ne suis pas la seule à éprouver des angoisses. Mais de manière générale, j'arrive à respirer tranquillement quand je suis seule, quand je n'ai pas à m'inquiéter de grand-chose, ça va. Mais la plupart du temps, je sens que la personne que je dois être, que je me sens obligée d'être, n'est peut-être pas la personne que je suis vraiment, que je dois continuer d'être. Là, il y a un petit peu un sentiment de claustrophobie.
Quand vous étiez adolescente aussi ?
Oh, much worse when I was a teenager.
Ah, c'était encore pire quand j'étais ado.
Far less neurotic.
Je suis beaucoup moins névrotique que je ne l'étais dans mon adolescence.
I think that's probably why I like to write about teenage life.
Voilà pourquoi j'aime écrire sur l'adolescence. C'était un moment de paroxysme. D'abord, je ne savais pas qui j'étais. Je regardais autour de moi. Et je voyais bien ce qu'il serait souhaitable de devenir, mais je comprenais que ce n'était pas ce qui correspondait à mon moi profond. Et puis beaucoup de mes amis éprouvaient la même chose, vivaient des déchirements, certains se sont transformés, ont changé, sont partis habiter très loin et sont devenus des gens radicalement différents de ce qu'ils étaient à l'époque ou sont devenus l'opposé de ce qu'attendaient leurs parents, leurs proches. Moi, je n'ai jamais su faire ça, cette grande coupure.
Qu'est-ce qui reste ?
Alors, je fais ça à travers l'écriture. Peut-être que si je l'avais fait davantage dans la vraie vie, eh bien, je ne mettrai pas tout ça dans mes livres.
Qu'est-ce qui reste de l'adolescente que vous étiez ? Des rêves ?
Oh, what do I still have ? Well, no, I don't think I dream much about being a teenager, but
je ne rêve pas de revenir à cette période. En revanche, je me rappelle parfaitement mes années de lycée entre l'âge de 14 et 18 ans. Les années de fac, c'est assez flou. La petite enfance, c'est assez flou aussi. Mais je me souviens du premier jour de classe au lycée jusqu'à la dernière journée de lycée. Ça fait partie de ma vie. Ça continue de vivre en moi.
Alors on va se souvenir ensemble. Rêver d'hier avec R, tiens, c'était il y a 17 ans. On ferme les yeux, on se souvient, ça y est, on y est. Vous êtes sur France Inter avec Laura Kaczynski. Vous écoutez Boomerang, Playground Love. Elle était bourriffée, comme si elle venait tout juste de sortir d'une course-poursuite en forêt. Elle a le teint pâle et frais, des yeux d'un bleu mélancolique, des taches de rousseur qui lui donnent un je ne sais quoi de fifi brin d'acier. Tiens, Laura Kaczynski, quelque part entre l'ancienne hippie et la fée marraine dans un conte de fées, invitée de Boomerang ce matin pour son premier recueil de nouvelles Si un inconnu vous aborde. Alors on vous présente comme romancière, Laura, mais vous vous considérez d'abord comme poétesse. Votre rencontre avec la poésie, quand est-ce qu'elle s'est faite ?
I remember being read poetry.
Je me rappelle quand j'étais petite, on me lisait de la poésie, c'était ma mère. Elle me lisait des poèmes pour enfants. Bon, elle n'écrivait pas, elle n'a jamais étudié la poésie, elle l'aimait simplement. Et je me rappelle, c'était curieux, c'était un livre de poésie pour enfants assez étrange, parce que certains poèmes, je ne sais pas s'ils étaient destinés aux enfants. Bon, il y en avait un qui parlait d'une poupée abandonnée la nuit dehors. Mais la toute première fois où je me rappelle avoir écrit de la poésie, vouloir écrire de la poésie, je devais avoir 11 ans. On avait un prof qui nous avait demandé de créer tous ensemble un recueil de poèmes. Et je me rappelle une nuit, j'étais dans mon lit, j'ai éprouvé le besoin impérieux de me lever pour écrire un poème qui me courait dans la tête.
Qu'est-ce qu'il racontait, ces poèmes ?
Ça parlait de la chute des feuilles mortes à l'automne. Mais je me rappelle, j'étais poussée par une phrase, une image que j'avais en tête et que je voulais absolument écrire de peur de l'oublier.
Mais en quoi écrire de la poésie, cette sensibilité de poète, en fait, ça a influé sur votre façon d'écrire et de raconter des histoires ?
Écoutez, ce qui me passionne, ce sont les figures de style, les métaphores, les détails sensoriels. Et j'adore parvenir à toucher le monde physique, sensuel, surtout dans la poésie, mais dans la fiction aussi. D'ailleurs, quand je lis des romans, ce qui me motive, ce n'est pas tant l'histoire que l'atmosphère.
Cette façon de construire une atmosphère, ça tient à quoi pour vous, justement ? À quel genre de détails ?
Je crois que ça se cristallise ou pas, mais à travers l'accumulation de détails. Et je crois aussi que justement, quand il y a cristallisation, eh bien, le subconscient nous aide beaucoup à rassembler, compléter les détails qui créent une ambiance particulière. Bien sûr, je n'ai pas de recette précise. Mais si je me mets à écrire, j'ai déjà dans la tête l'idée de l'ambiance, du lieu, comment le récit va s'imbriquer là-dedans avec les personnages, les émotions qu'ils vont ressentir. Et bien sûr, tout ça, c'est affaire de saison, de couleur de ciel, les sons, l'émulation de tous les sens, et c'est tout ça qui crée cette ambiance.
Puis l'inconscient, c'est pour ça que toutes vos atmosphères sont inquiétantes. Pour vous, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas d'histoire sans inquiétude.
Je sais qu'aucune histoire n'est possible sans un conflit. Il faut cette tension. Bien sûr, le conflit peut être plus ou moins dramatique, moins inquiétant que ceux que je choisis, mais ce sont ceux qui m'intéressent.
J'aimerais lire un extrait de l'une de vos nouvelles, ça s'appelle « Les prisonniers ». Les années passant, alors que les décisions impardonnables et radicales que Chloé avait prises semblaient de moins en moins radicales et de plus en plus pardonnables, Elle avait enfin accepté que son mari puisse l'aimer sans être enflammée, même si 8 ans plus tard, elle-même l'était toujours. Mais elle avait la sensation que cela faisait à peine une semaine qu'elle s'habituait à cet état de fait, à tout, à sa vie, à ses décisions étranges, à croire qu'elles étaient prises par une inconnue et s'acceptaient elle-même et ses actions. Était-il possible d'éprouver le passage du temps de manière si différente par rapport aux horloges et aux calendriers, ou était-ce, ainsi qu'elle le soupçonnait, une espèce de distorsion, comme la petite mise en garde faite au pochoir, en bas du rétroviseur? En regardant en arrière, elle ne faisait que croire que les choses étaient comme elle les voyait à présent, alors qu'elles étaient plus petites, déformées par le recul, et jamais plus on ne pourrait vraiment les comprendre ou les analyser. Évidemment, Chloé ne pouvait pas donner la date exacte, indiquer le moment précis où elle avait fini par tout accepter après 8 ans de vicissitudes et de culpabilité, si ? Non. La culpabilité, Laura Kaczynski, qui est le point commun de presque tous vos personnages hantés par une faute passée, qui hante aussi votre littérature, n'est-ce pas ce qui fait aussi de vous un écrivain profondément américain, cette obsession pour la faute ?
I'm not sure. I think that that's possible.
Je ne sais pas.
At the center
Mais bien sûr, c'est possible. Nous vivons vraiment au cœur de conflits terribles à travers le monde. Mais je crois que c'est aussi à cause de la manière dont j'ai été élevée dans la religion. On ne cessait de me répéter que on pouvait me pardonner, qu'on serait tous pardonnés. Et ça, ça s'est inculqué en moi avant même que je sache ce qu'était le péché originel. Mais je savais qu'il fallait que je me fasse pardonner quelque chose. Et ce pardon, c'est ce qu'on recherche tous, d'où il découle logiquement qu'on est réellement coupable de quelque chose.
Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au final, toutes ces histoires de culpabilité, c'est une matière pour l'écrivain que vous êtes. Est-ce que dans un monde sans culpabilité, la littérature serait possible ?
Oui,
j'adhère complètement à cette idée. Il ne saurait y avoir de littérature sans culpabilité. Sans qu'il existe certains humains animés d'une volonté de nuire, de faire le mal, c'est la définition de la tragédie. La tragédie, c'est pas seulement quand une brique vous tombe sur la tête, c'est quand vous faites quelque chose pour faire tomber la brique sur la tête de quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait des interactions humaines, des erreurs qui soient commises, et puis d'énormes répercussions sur la vie du personnage qui se sent rongé de culpabilité.
Merci Laura Kaczynski d'être venue faire un tour dans Boomerang. Merci aussi à votre interprète ce matin, la si précise Eve Dare. Je rappelle Laura que Si un inconnu vous aborde, mais aussi votre dernier recueil de poèmes Mariée Rebelle, sont publiés aux éditions Page à Page, et que tout le reste de votre œuvre est disponible aux éditions Christian Bourgois en poche également, ce qui est une excellente nouvelle. Merci enfin à mes porteurs de nouvelles qui font chaque jour la beauté de Boomerang, Lola Costantini, Valentine Chedebois, Léonard Billot, Pierre-Martinerie, Margot Criou. Merci les amis, et place à l'instant M, l'instant média de Dorothée Barba, qu'on remercie aussi pour cette si belle semaine, en attendant le retour lundi de Sonia. C'est juste après ça. Chance au banco.
C'était Juliette Armanet en Cavalier seul sur France Inter.